Alors, quelqu'un m'a dit un jour, mais ça sert à quoi de prier? Et c'est vrai que quand on est au culte, eh bien, on peut prier pour des choses un peu générales. Surtout, à la fin, on a une prière qui s'appelle la prière d'intercession, la prière des uns pour les autres, et on prie de façon générale. Mais la généralité m'empêche-t-elle de penser à des personnes particulières que je connais? Par exemple, si je prie pour des personnes malades, ou en tout cas si la prière d'intercession prie pour des personnes malades, est-ce que, enfin en tout cas, dans mon entourage, ça m'arrive de connaître des personnes qui sont en effet malades? Donc je peux m'associer à cette prière. Si par exemple je prie pour des familles en deuil, il est rare que je ne connaisse pas quelqu'un qui soit en deuil. Alors j'ai essayé d'expliquer à cette personne que c'était à elle de s'associer à la prière avec tous les gens qu'elle connaît dans son entourage, avec les difficultés, les situations parfois compliquées, ou alors aussi les joies et les détresses. Et puis si par hasard la prière mentionne des situations qui lui sont étrangères, comme un jour j'avais prié pour des personnes en prison, parce que je connaissais des personnes en prison, eh bien, même si on ne les connaît pas, on peut se mettre en communion avec ces personnes-là. La prière est la respiration du croyant. Alors bien sûr, on prie au culte, mais on prie seul dans sa chambre. Ça, c'est une prière que le protestant aime bien. On ferme la porte et on est tranquille. Mais on peut prier n'importe où et n'importe quand. Alors on peut prier avec une prière structurée, on peut choisir des mots de quelqu'un d'autre dans un recueil. Je sens que... Ou bien on peut prier spontanément avec nos propres mots. Qu'est-ce que ça veut dire prier ? C'est parler à Dieu, tout simplement. Et nous avons entendu dans les textes bibliques comment Dieu nous encourage à le prier. « Vous me prierez et je vous écouterai. Vous me rechercherez et je me laisserai trouver par vous. » Ce n'est pas une injonction morale. Il ne dit pas « Il faut prier pour être meilleur ». Non. Dieu nous encourage à lui parler pour mieux le connaître et savoir qu'il désire la vie pour tous. « Je vais vous donner un avenir et une espérance », nous dit-il. Et Dieu demande qu'on le prie pour faire vivre la relation qu'on a avec lui. C'est un peu comme avec un ami. J'ai un ami qui habite loin et je peux passer beaucoup de temps sans lui parler, sans prendre de ses nouvelles. Et dans ce cas-là, la relation va être au point mort. Louise, il faut que tu restes tranquille, tu sais, si tu veux rester au culte. Mais le jour où vous prenez contact de nouveau avec votre ami, vous demandez des nouvelles et là, la relation devient plus vivante. Et les échanges avec votre ami, ça peut vous apporter du réconfort, de la joie. C'est ce qui se passe avec Dieu. On peut le laisser tranquille pendant un moment, mais quand on a envie de retourner vers lui, d'abord, il ne nous fait aucun reproche. Et ensuite, cette relation nouvelle peut nous apporter de la paix, de la joie, le sentiment de se sentir aimé, d'exister pour lui, parce que nous existons pour Dieu. Et puis la prière est une manière aussi de ne pas uniquement compter sur nous. Par exemple, quand nous vivons un événement désagréable ou même dramatique, nous pouvons être submergés par nos émotions. Et là, eh bien, il arrive souvent que nous nourrissions des sentiments négatifs. Mais au lieu de cela, ou en tout cas dans un deuxième temps, parce que les émotions, elles sont naturelles, elles arrivent, et puis il faut les accueillir, les accepter, les traverser, et ensuite on peut remettre à Dieu tout ce qu'on vit dans la prière. Ça permet de prendre du recul, ça permet de lui confier tout notre désarroi et nos questions. Et en fait, vous avez entendu dans les trois textes, dans le texte en tout cas de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, c'est Dieu lui-même qui nous demande de prier, ou Jésus qui nous dit, Dieu nous demande de le prier, et même avec insistance. Même comme quand on frappe Alors moi, ça ne m'arrive pas très souvent de frapper à la porte d'un ami à minuit, mais ça doit être un vrai ami en tout cas. Et Dieu, on peut l'appeler n'importe où, même à minuit. Vous avez entendu dans l'histoire, l'ami repousse celui qui le réveille, mais comme il insiste, il est sans gêne en fait, l'ami, il est sans gêne. Et en fait, Jésus nous dit, soyez sans gêne avec Dieu. C'est quand même curieux. Je me suis dit, c'est quand même une drôle de manière de présenter Dieu. Est-ce que Dieu exauce nos prières uniquement pour ne pas être importuné? Non, je pense non, bien sûr que non. Et Jésus insiste en disant, cherchez avec insistance et vous trouverez. Quiconque demande reçoit, et à qui frappe on ouvrira. Le chercher, il s'adresse à nous parce que nous ne savons pas toujours très bien comment chercher. Mais ce n'est pas grave, on cherche, on persiste. Et en fait, la personne qui frappe pour que son ami lui donne du pain, cette personne, elle est sans gêne parce qu'elle a confiance. Et je me suis dit, c'est ça que Dieu nous demande, qu'on ait confiance en lui. Quand on lui adresse notre prière, on peut avoir confiance. Alors bien sûr, on n'est pas toujours sûr de prier comme il faut. On se dit, est-ce que j'utilise les bons mots? Est-ce que c'est la bonne manière? Mais Dieu, il ne nous demande pas ça. Il n'a pas cette exigence-là. Il nous demande juste de lui parler, de s'adresser à lui. Parce qu'il nous connaît, il sait nos intentions, il sait ce qu'il y a dans nos cœurs, il sait nos désirs. Alors, prier avec insistance, ou dans d'autres textes, on nous dit prier avec persévérance. Qu'est-ce que cela signifie ? Prier, déjà, c'est apprendre un temps de recul avec notre quotidien. La prière personnelle appartient à chacun et à chacune. Cela peut prendre 5 ou 10 minutes avant de partir à l'école ou au travail. Ou bien le soir, on peut faire la prière au moment de se coucher. Et puis évidemment, on peut y consacrer plus de temps. Parfois, c'est au milieu de la journée, on pense à Dieu, on dit à Dieu, « Ah, mais là, j'ai besoin de toi » ou « Pour cette personne, sois là ». Et puis, la prière personnelle peut s'accompagner d'une lecture dans la Bible, un texte biblique, dans les psaumes ou ailleurs. Ça aide à méditer et à réfléchir. Et puis, il y a bien sûr la prière pendant le culte, qui est publique, ouverte à tous. C'est une prière guidée par le ou la pasteur, ou bien par un prédicateur. Et chacun essaye de se relier aux mots qui sont choisis ce jour-là. Et puis, il existe aussi une prière collective, qui est beaucoup plus participative. Cette prière collective permet à chacun et à chacune de parler à Dieu avec ses propres mots. Alors bien sûr, on est toujours intimidé, surtout au début, quand on n'a jamais fait. Mais elle permet d'entendre aussi de quelle façon l'autre prie, avec quels mots. Et en fait, c'est un cadeau que l'on se fait mutuellement, ensemble, dans la relation commune que nous avons avec Dieu. On rend présent ensemble le Dieu invisible. C'est un véritable enrichissement pour tous ceux qui sont présents et tous ceux pour qui on prie, bien sûr. Car la prière est une intercession pour soi-même et pour les autres. Intercéder, c'est intervenir auprès de quelqu'un, donc là, c'est à Dieu, en faveur de quelqu'un d'autre. Donc on présente à Dieu des personnes qui ont besoin de son aide. Et en effet, c'est un enrichissement de pouvoir déposer son fardeau ensemble, devant Dieu et au nom du Christ. Et c'est aussi un enrichissement de voir les merveilles de Dieu à l'œuvre. C'est une manière, comme le dit l'apôtre Paul, de rendre notre foi active et de rendre gloire à Dieu au nom du Christ. Alors j'ai vécu une très belle expérience de ce genre en plein été à Beauvais, quand j'étais pasteur là-bas il y a longtemps. C'était une prière qui a été réclamée par les paroissiens qui étaient de toute origine et de toute historique. Enfin, il y avait aussi bien des protestants historiques que des protestants plus récents, anciens et nouveaux. Et nous avons prié pour un petit bébé qui avait un problème cardiaque depuis sa naissance et il devait subir une opération déterminante. Et nous avons prié pour que Dieu guide ce chirurgien qui était aux commandes de l'opération. Et ce que j'ai compris, c'est que le protocole avait été changé au dernier moment et que l'opération a réussi au-delà des espérances de tous. Alors aujourd'hui encore, la joie se partage entre les personnes qui ont prié pour cet enfant et elle se partage avec Dieu dans la louange. Parce que le petit garçon va très bien maintenant. Évidemment, la prière est un risque. C'est vrai que c'est facile de se dire « je ne vais rien lui demander, comme ça je ne risque rien ». Risque de ne pas voir sa prière exaucée. Et pourtant, Dieu nous dit « priez et je vous écouterai ». Et quand on en voit l'exaucement, c'est une véritable joie de pouvoir le louer, le remercier, et cette joie dure. Je vous écouterai. Dieu écoute toujours notre prière, que ce soit une plainte, un remerciement, une demande. Et le mystère, évidemment, c'est sa manière de l'exaucer. Parce qu'en effet, des fois, il nous donne sa réponse par surprise. Et puis des fois, eh ben, on a beaucoup prié pour quelque chose qui n'est pas venu. Et un jour, je m'en confiais à une de nos sœurs protestantes. Je lui disais quand même... Moi aussi, hein, les pasteurs aussi, l'exaucement n'est pas systématique du tout. Et donc je lui disais, mais voilà, qu'est-ce qu'on fait avec cette question de l'exaucement? Elle me dit, mais tu n'en sais rien s'il n'a pas exaucé ta prière déjà de sa manière à lui. Ou si, dans le futur, dans un temps qui n'est pas le tien, cette prière recevra l'exaucement. En tout cas, Dieu entend. Et l'exaucement, en tout cas, on ne le voit pas toujours et ça ne va pas toujours dans le sens que l'on voudrait. Alors, quand on a besoin d'un modèle, on va vers Jésus, bien sûr, et Jésus, au moment du Jardin des Oliviers... Alors, avant le Jardin des Oliviers, il a souvent prié. Il s'est mis tranquillement, la nuit, seul en prière, ou bien avec ses disciples. Et évidemment, le dernier jour, avant qu'il soit arrêté au Jardin des Oliviers, eh bien... Il a demandé à Dieu, s'il te plaît, enlève cette souffrance de mon chemin. Il n'avait pas envie de souffrir du tout. Quand on dit que la souffrance est nécessaire, non, ce n'était pas nécessaire. Jésus n'a pas voulu souffrir. Il a demandé à Dieu de lui retirer cette souffrance. Il ne voulait pas passer sur la croix. Mais il a terminé sa prière en disant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Parce qu'il savait que la volonté de Dieu, il ne pouvait pas la comprendre, toujours. Et donc, on peut imaginer que Dieu lui a donné la force de traverser cette épreuve. Jésus se confie en Dieu pleinement parce qu'il l'aimait. En fait, prier est un acte d'amour. C'est un acte d'amour pour Dieu d'abord, parce qu'on dit à Dieu qu'on l'aime, on le reconnaît comme notre Seigneur et on a confiance en lui. Et c'est un acte d'amour ensuite pour notre prochain. Parce que pendant notre prière, eh bien, nous orientons notre pensée vers d'autres personnes que nous. En général, en leur voulant du bien. Et puis, c'est aussi un acte d'amour pour nous-mêmes. Parce que c'est à l'intérieur de nous que cela se passe, dans notre cœur. C'est une façon de prendre soin de nous-mêmes que de faire silence pour accueillir ce Seigneur qui nous aime et en qui nous pouvons nous confier. Alors oui, osons prier, même pour des causes qui nous paraissent insolubles. Et c'était un peu de mon intention quand je vois, j'en ai parlé dimanche dernier, de la situation compliquée d'Israël et Palestine. Osons prier pour des causes qui nous paraissent insolubles. Osons nous relier à cette immense chaîne de prières qui parcourt le monde entier. Un ami pasteur disait, vous vous rendez compte que le monde irait bien plus mal s'il n'y avait pas tous ces gens qui prient partout sur la terre. Oui, pensons à nous relier à Dieu, ce Père qui nous aime, et à Jésus, ce frère qui connaît notre vie humaine. Ainsi, nous pourrons témoigner de cette présence ô combien précieuse à nos côtés, dans toutes les dimensions de notre vie. Amen.